Wilkie Collins. La mer glaciale. Scène première. La salle de bal. Il y a de cela 20 ou 30 ans, la scène se passe dans un port de mer en Angleterre. Il fait nuit et l'on est au bal. Le maire de la ville et le conseil municipal donnent un grand bal pour célébrer le départ de deux navires, le Wanderer et le Sea Mew, qui vont vers le pôle arctique chercher un passage au nord-ouest et doivent prendre le large le lendemain à la marée du matin. Honneur au maire et au conseil municipal. C'est un magnifique bal. L'orchestre est au complet, le salon spacieux, la vaste salle de rafraîchissement, agréablement éclairée par des lanternes chinoises et délicieusement décorée d'arbustes et de fleurs. Tous les officiers de l'armée et de la marine qui sont présents ont mis leur uniforme pour la circonstance. Les toilettes des dames, sujet que les hommes ne savent pas apprécier, sont ravissantes. La beauté de la plupart de ces dames, sujet dont les hommes sont bons juges, frappe les yeux de quelque côté qu'on se tourne. La danse qu'on exécute en ce moment est un quadrille. L'admiration générale se porte exclusivement sur deux des danseuses qui en font partie. L'une, aux cheveux noirs, est dans la primeur de sa beauté féminine. C'est la femme du premier lieutenant Crayford, du Wanderer. L'autre est une jeune fille pâle et délicate, vêtue d'une simple robe blanche, sans aucun ornement sur la tête, si ce n'est sa délicieuse chevelure brune. C'est Mademoiselle Clara Burnham. Elle est orpheline, elle est l'amie intime de Madame Crayford et doit rester auprès d'elle pendant le voyage du lieutenant au pôle arctique. Elle danse en ce moment avec le lieutenant et a pour vis-à-vis Madame Crayford et le capitaine Helding qui commande le Wanderer. La conversation entre le capitaine Helding et Miss Crayford, dans les intervalles de la danse, roule sur Mademoiselle Burnham. Le capitaine la considère avec un grand intérêt. Il admire sa beauté, mais il lui trouve l'air pour une jeune fille, étrangement sérieuse et abattue. Est-ce qu'elle est d'une santé délicate ? Madame Crayford secoue la tête, soupire mystérieusement et répond « D'une santé très délicate, capitaine. Elle est physique ? Nullement. Ah, tant mieux. C'est une charmante personne. Elle m'intéresse au dernier point. Si j'avais seulement 20 ans de moins... Mais comme je n'ai pas 20 ans de moins, je ferais mieux de ne pas finir ma pensée. » « Est-il indiscret, chère madame, de vous demander quelle est sa maladie ?»« De la part d'un étranger, cela pourrait être indiscret, mais un vieil ami comme vous peut m'adresser toutes sortes de questions. Je ne demande pas mieux de vous dire de quel mal est atteinte Clara. C'est un mystère pour les docteurs eux-mêmes. Dans mon humble opinion, ce qu'elle souffre provient en partie de la manière dont elle a été élevée. »« Oui, oui, dans une mauvaise pension, je suppose. » « Très mauvaise, mais non pas dans le sens que vous donnez à ce mot dans ce moment. Les premières années de Clara se sont écoulées dans une vieille maison isolée au milieu des Highlanders écossais. Ce sont ces montagnards ignorants qui ont fait le mal dont je viens de parler. Ils ont rempli son esprit de superstitions qui passent encore pour autant de vérité dans les cantons sauvages du Nord, notamment la croyance dans ce qu'on appelle la seconde vue. » « Bon Dieu !» s'écria le capitaine, « vous ne voulez pas dire qu'elle partage cette croyance à une époque aussi éclairée que la nôtre ?» Madame Crayford regarda son partenaire en souriant d'un air malin. « À cette époque si éclairée, capitaine, nous croyons aux tables tournantes et aux messages envoyés de l'autre monde par des esprits qui ne peuvent écrire. Auprès de ces superstitions, la seconde vue a quelque chose, au moins de poétique, qui la recommande. » « Jugez, continua-t-elle sérieusement, l'effet d'un entourage comme celui dont je viens de parler, sur une jeune personne aussi délicate qu'une sensitive, sur une fille d'un caractère naturellement romanesque et qui mène une existence solitaire et inoccupée. Est-il surprenant qu'elle ait été atteinte de la superstition contagieuse qui régnait autour d'elle ? Est-il absolument incompréhensible que son système nerveux ait souffert en conséquence à une époque si critique de sa vie ? Non, certainement, Madame Crayford, non, certainement, comme vous le dites. Seulement, ce qui m'étonne, moi, homme vulgaire, c'est de rencontrer dans un bal une jeune demoiselle qui croit à la seconde vue. Avoue-t-elle réellement qu'elle prévoit l'avenir ? Faut-il que je croie qu'elle a positivement des extases durant lesquelles elle voit des gens qui se trouvent dans des pays éloignés et prédit ce qui doit arriver ? C'est ce qu'on appelle la seconde vue, n'est-ce pas ? C'est là, en effet, la seconde vue, capitaine, et c'est là réellement et positivement ce qu'elle fait. La jeune dame qui nous fait vis-à-vis ? La jeune dame qui nous fait vis-à-vis. Le capitaine attendit un moment pour laisser au flot d'informations qui venait de lui être donné le temps de se reposer complètement au fond de son esprit. Quand il crut cette opération accomplie, il procéda résolument à de nouvelles découvertes. « Puis-je vous demander, madame, si vous avez jamais vu cette jeune personne dans un de ses états d'extase, mais je dis « vu », de vos propres yeux « vu » ?»« Ma sœur et moi l'avons vue en état d'extase, il n'y a guère moins d'un mois », répondit madame Crayford. Elle avait eu toute la matinée les nerfs agacés et irrités, et nous la conduisîmes au jardin pour lui faire respirer un air frais. Tout à coup, sans que nous puissions deviner pourquoi, nous la vîmes pâlir. Elle resta entre nous, debout, insensible au toucher, insensible au bruit, immobile comme une pierre, et, en même temps, froide comme une morte. Cet état dura quelques minutes, après lesquelles ses mains commencèrent à se mouvoir lentement, comme si elle marchait dans l'obscurité. Des mots sortirent l'un après l'autre de sa bouche, sa voix était sourde et creuse, comme si elle parlait en dormant. Je ne puis vous dire si elle parlait du passé ou de l'avenir. Seulement, je compris qu'elle parlait des personnes qui se trouvaient à l'étranger et nous étaient parfaitement inconnues à ma sœur et à moi. Après un court laps de temps, elle devint soudainement silencieuse. Ses couleurs reparurent un instant sur son visage, puis elle pâlit de nouveau. Ses yeux se fermèrent, ses jambes se dérobèrent sous elle et elle tomba insensible dans nos bras. « Elle tomba insensible dans vos bras ?» répéta le capitaine. « C'est très extraordinaire. Et dans cet état de santé, elle va dans des réunions, dans des bals ? C'est plus extraordinaire encore. » « Vous vous méprenez complètement, » dit madame Crayford. « Elle n'est ici ce soir que pour me faire plaisir et elle ne danse que pour faire plaisir à mon mari. En général, elle évite toutes les réunions. Le docteur lui recommande de faire de l'exercice et de se distraire. Elle ne veut pas l'écouter. Excepté quelques rares occasions comme celle-ci, elle persiste à rester au logis. » La figure du capitaine s'illumina en entendant cette allusion au docteur. Ce docteur devait chercher quelques remèdes pratiques, lui, homme de science. Il devrait observer un sujet si obscur sous un nouveau jour. « Qu'en pense-t-il maintenant ? » dit le capitaine. « N'y voit-il simplement qu'un cas d'observation ? Comment l'explique-t-il ? » « Il ne veut pas exprimer une opinion positive, » répondit madame Crayford. « Il m'a dit que des cas semblables à celui de Clara ne sont pas absolument rares dans la pratique médicale. » « Nous savons, m'a-t-il dit, que certains désordres, dans le cerveau et dans le système nerveux, produisent des effets tout aussi extraordinaires qu'aucun de ceux que vous m'avez décrits. Mais là s'arrête notre science. Ni la mienne, ni celle d'aucun autre praticien, si habile qu'il soit, ne peut pénétrer dans le mystère que renferment des cas semblables. Ici, on se heurte devant une difficulté spéciale, parce que la vie de Mademoiselle Burnham, dans ses premières années, l'a prédisposée à attacher une importance superstitieuse à la maladie dont elle souffre, maladie que quelques docteurs appelleraient volontiers hystérique. Je vous donnerai quelques prescriptions pour la maintenir dans un état général de bonne santé et je vous recommanderai d'essayer quelques changements dans son régime de vie, pourvu qu'au préalable, vous allégiez son esprit de quelques chagrins secrets qui peut-être pèsent sur lui. » Le capitaine sourit comme s'il s'approuvait intérieurement lui-même. Le docteur était allé au-devant des propres idées du capitaine en conseillant une solution pratique de la difficulté. « Oui, oui, nous avons mis enfin le doigt sur la plaie, un chagrin secret. Oui, oui, c'est assez clair maintenant. » « Un désappointement amoureux. »« Qu'en dites-vous, madame Crayford ?»« Je ne sais que dire, capitaine. Je n'y vois absolument goutte. La confiance de Clara en moi était illimitée sur toute autre matière, mais sur celle-ci, sur celle d'un chagrin supposé, cette confiance m'a totalement fait défaut jusqu'ici. Dans tout le reste, nous sommes comme deux sœurs. Quelquefois, je crains, en effet, qu'elle ne soit en proie à une peine secrète. Quelquefois, je me sens un peu blessé de son incompréhensible silence. » Le capitaine Helding avait une solution pratique, toute prête pour une semblable difficulté. « L'encouragement est tout ce dont elle a besoin, madame. Croyez-moi, cela dépend entièrement de vous. Encouragez-la à se confier à vous, et elle s'y confiera. J'attends pour l'encourager qu'elle soit seule avec moi après que vous serez tous partis pour les mers polaires. En attendant, voulez-vous garder ce que je vous ai dit pour vous seule ? Voulez-vous aussi me pardonner si je vous avoue que le tour qu'a pris notre conversation ne me tente pas de la continuer ?» Le capitaine comprit à demi-mot. Il changea immédiatement de sujet et parla de sa profession. Il commença par dire quelques mots des navires qui étaient commandés pour un service à l'étranger. Mais, voyant que cette matière n'intéressait pas Madame Crayford, il se rejeta sur les navires dont le retour était attendu. Cette tentative eut son effet, mais un effet que le capitaine n'avait pas eu en vue. « Savez-vous, dit-il, que l'Atalante doit arriver d'un moment à l'autre des côtes occidentales d'Afrique ? Avez-vous quelques connaissances parmi les officiers de ce navire ?» Il arriva par hasard qu'il adressa cette question à Madame Crayford au moment où ils étaient engagés dans une des figures de la contredanse qui les rapprochait assez de leur vis-à-vis pour en être entendus. Au même moment, au grand étonnement des amis et des admirateurs de Mademoiselle Clara Burnham, elle commit une méprise qui embrouilla le quadrille. Chacun s'attendait à la voir réparer son erreur. Elle n'en fit rien. Elle saisit son partenaire par le bras. « La chaleur, dit-elle d'une voix faible. Emmenez-moi, emmenez-moi au grand air. » Le lieutenant Crayford la conduisit aussitôt hors du salon et la fit entrer dans la salle du buffet qui était fraîche et déserte alors. Naturellement, le capitaine et Madame Crayford quittèrent en même temps le quadrille. Le capitaine vit là une occasion de plaisanter. « Est-ce que c'est une de ces extases qui commencent ? » dit-il tout bas à Madame Crayford. « S'il en était ainsi, j'aurais une requête particulière à vous adresser comme commandant de l'expédition polaire. La seconde vue voudrait-elle me rendre le service, avant que nous quittions l'Angleterre, de découvrir quel est le chemin le plus court pour atteindre le passage du Nord-Ouest ?» Madame Crayford n'était pas d'humeur à se prêter à la plaisanterie. « Si vous voulez me permettre de vous quitter, dit-elle tranquillement, je vais essayer de savoir dans quel état se trouve Mademoiselle Burnham. » À l'entrée du buffet, elle rencontra son mari. Le lieutenant était un homme d'âge moyen, de haute taille et d'une figure avenante. Il avait dans ses manières une simplicité et une bonne grâce qui le faisaient bien venir dès le premier abord, et ses grands yeux bleus annonçaient une irrésistible bonté. En un mot, c'était un homme que chacun aimait sans en excepter sa femme. « Ne vous alarmez pas, dit-il, la chaleur l'a indisposé, c'est tout. » Madame Crayford regarda son mari d'un air en même temps narquois et tendre. « Cher vieil innocent, s'exclama-t-elle, cette explication peut être bonne pour vous. Quant à moi, je n'en crois pas un mot. Allez chercher une autre danseuse et laissez-moi avec Clara. » Elle entra dans la salle du buffet et vint s'asseoir à côté de Clara. « Voyons, ma chère, dit-elle, qu'est-ce que cela signifie ?»« Rien. Ce n'est pas une réponse, cela. » « Voyons, soyez franche, Clara. »« La chaleur du salon. » »« Ce n'est pas une réponse non plus. Dites-moi que vous voulez garder votre secret et je comprendrai ce que cela veut dire. » Les yeux tristes et d'un gris limpide de Clara se fixèrent pour la première fois sur la figure de Madame Crayford et soudainement s'obscurcirent de larmes. « Si j'osais seulement vous le dire, murmura-t-elle, mais je tiens si fort à la bonne opinion que vous avez de moi, Lucie. » « Et je crains tant de la perdre. » Madame Crayford changea de manière. Elle attacha son regard gravement et avec anxiété sur la figure de Clara. « Vous savez aussi bien que je le sais moi-même que rien ne peut ébranler mon affection pour vous, dit-elle. « Rendez justice, mon enfant, à votre vieille amie. il n'y a personne ici qui puisse nous entendre. Ouvrez-moi votre cœur, Clara. Je vois que vous souffrez, et je veux alléger votre peine. » Clara commença à se rendre. En d'autres termes, elle commença à faire ses conditions. « Voulez-vous me promettre de ne divulguer ce que je vais vous confier à âmes qui vivent ?» dit-elle. Madame Crayford répondit à cette question par une question qu'elle fit à son tour à Clara. « Dans les mots « âmes qui vivent », entendez-vous comprendre même mon mari ?»« Votre mari, plus que tout autre. Je l'aime, je le vénère. Il est si noble et si bon. Si je lui disais ce que je vais vous dire, il me mépriserait. » Avouez-moi franchement, Lucie, si c'est trop exigé de vous que de vous demander de cacher quelque chose à votre mari. Vous déraisonnez, enfant. Quand vous serez mariée, vous verrez que, de tous les secrets, le plus facile à garder est celui qu'on ne veut pas confier à son mari. Je vous promets de me taire comme vous me le demandez. Maintenant, commencez. Clara hésitait. « Je ne sais par où commencer !» s'écria-t-elle d'un ton désespéré. « Les mots ne me viennent pas. »« Alors, il faut que je vous aide. Vous trouvez-vous indisposée ce soir ? Sentez-vous quelque chose de semblable à ce que vous avez senti le jour où vous étiez dans le jardin avec ma sœur et moi ?»« Oh non ! Vous n'êtes pas indisposée, la chaleur ne vous a pas réellement incommodée, et cependant vous avez pâli et il vous a fallu quitter le quadrille. Il doit y avoir une raison pour cela. » « Il y en a une, le capitaine. »« Le capitaine, qu'a donc à faire ici, au nom du ciel, le capitaine ?»« Il vous a parlé de l'Atalante. Il vous a dit que l'Atalante était attendue d'Afrique d'un moment à l'autre. »« Eh bien, qu'est-ce que cela vous fait ? Y a-t-il sur ce navire quelqu'un dont vous souhaitiez le retour ?»« Quelqu'un dont je redoute le retour se trouve sur ce navire. » Les beaux yeux noirs de Madame Crayford s'ouvrirent démesurément de surprise. « Ma chère Clara, ce que vous me dites là est-il vrai ? Attendez un peu, Lucie, et vous jugerez vous-même. Il me faut remonter, si je veux que vous me compreniez, jusqu'à l'année qui a précédé celle où nous nous sommes connus, jusqu'à la dernière année de la vie de mon père. Vous ai-je jamais dit que mon père, à cause de sa santé, était allé s'établir dans le sud ? Dans une maison du comté de Kent qui lui avait été louée par un ami ? Non, ma chère, je ne me souviens pas d'avoir jamais entendu parler de cette maison. Dites-moi de quoi il s'agit. Je n'ai rien à en dire si ce n'est ceci. Cette maison était voisine d'une belle habitation de campagne située dans le parc et dont le propriétaire était un gentleman nommé Wardour, l'un des amis de mon père. Cet ami avait un fils unique. » Clara fit une pause et agita nerveusement son éventail. Madame Crayford la regarda attentivement. Clara fixa les yeux sur son éventail, mais elle se tut. « Quel était le nom de ce fils ?» demanda Madame Crayford d'un ton calme. « Richard. Ai-je raison, Clara, de soupçonner que M. Richard Wardour se prit d'admiration pour vous ?» La question produisit l'effet qu'en attendait Madame Crayford. Tout d'abord, j'eus quelque peine à savoir s'il m'admirait ou non. C'était un étrange jeune homme, opiniâtre à l'extrême et passionné, mais généreux et aimant, en dépit des défauts de son caractère. Comprenez-vous un tel caractère ? De tels caractères se rencontrent par milliers. Moi aussi, j'ai mes défauts de caractère. Je commence déjà à aimer ce Richard. Continuez. Les jours s'écoulèrent, Lucie, puis les semaines. Nous étions très souvent ensemble. Je commençais peu à peu à soupçonner la vérité. Et Richard ne manqua pas de confirmer vos soupçons, naturellement. Non, malheureusement pour moi, il n'était pas homme à se conduire ainsi. Il ne me parla jamais des sentiments que je lui inspirais. Ce fut moi qui m'en aperçus. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je fis tout ce que je pus pour qu'il comprît que j'étais disposée à être pour lui une sœur, mais que je ne pourrais jamais lui être autre chose. Il ne me comprit pas, ou il ne voulut pas me comprendre, je ne saurais le dire. Il ne le voulut pas, ma chère, c'est plus probable. Continuez. Oui, c'est possible, il y avait en lui une étrange et invincible timidité. Il me rendait confuse et m'embarrassait. Il ne s'expliqua jamais. On eût dit qu'il me traitait comme si nos futures existences avaient été arrangées pendant que nous étions enfants. Que pouvais-je faire, Lucie ?
Ce que vous pouviez faire, vous pouviez demander à votre père de trancher la difficulté à votre place.
Impossible, vous oubliez ce que je vous ai dit il y a un moment. Mon père souffrait, à cette époque, de la maladie qui devait, par la suite, causer sa mort. Il était absolument hors d'état d'intervenir.
N'y avait-il personne d'autre qui pût venir à votre aide ?
Personne.
Pas de dame à qui vous puissiez vous confier ?
J'avais des connaissances parmi les dames du voisinage. Je n'avais pas d'amis.
Que fîtes-vous donc ?
Rien. J'hésitais. Je tardais à en venir à une explication avec lui jusqu'à ce qu'il fût trop tard.
Que voulez-vous dire par trop tard ?
Vous allez l'entendre. Je devrais vous avoir dit que M. Wardour est dans la marine.
Vraiment, je m'intéresse d'autant plus à lui.
Eh bien, un jour de printemps, Richard vint chez nous pour prendre congé avant d'aller rejoindre son navire. Je le croyais parti et je passais dans la pièce voisine. C'était ma chambre de travail et elle ouvrait sur le jardin.
Ah !
Richard avait dû m'épier. Il parut tout à coup dans le jardin et entra dans ma chambre sans attendre mon invitation. Je fus un peu effrayée en même temps que surprise, mais je ne le lui laissais pas voir. Je lui dis « Qu'y a-t-il, Monsieur Wardour ?» Il s'arrêta près de moi et me dit de son ton bref et brusque « Clara, je pars pour la côte d'Afrique. Si j'en reviens, je reviendrai promue à un nouveau grade et nous savons tous deux ce qui arrivera. » Et là-dessus, il me donna un baiser. Je fus à moitié effrayée, moitié courroucée. Mais avant que je pusse me remettre et lui dire un seul mot, il était sorti du jardin, il était parti. J'aurais dû lui parler, je le reconnais. Mon silence n'était pas honorable, n'était pas charitable envers lui. Vous ne pouvez me reprocher mon manque de courage et de franchise plus amèrement que je ne me le reproche moi-même.
« Ma chère enfant, je ne vous ferai pas de reproches. Je pense seulement que vous pouviez lui écrire. »«
Je lui ai écrit. »«
Clairement ?»«
Oui, je lui ai dit, en propres termes, qu'il s'était mépris et que je ne pourrais jamais l'épouser. »«
C'est assez clair, en conscience. Ayant écrit cela, vous n'êtes point à blâmer. De quoi vous inquiétez-vous maintenant ?»«
Supposez que ma lettre ne lui soit point parvenue. »
« Pourquoi supposeriez-vous cela ?»«
Ce que j'écrivais méritait une réponse. J'avais demandé cette réponse. Je n'en ai pas reçu. Qu'en faut-il conclure ? Que ma lettre ne lui est pas parvenue. Et l'Atalante est attendue, M. Wardour revient en Angleterre. M. Wardour me réclamera comme sa femme. Croyez-vous maintenant que je sais bien ce que je dis ? En doutez-vous encore ?»
Madame Crayford se renversa d'un air distrait sur le dossier de sa chaise. Pour la première fois depuis le commencement de cette conversation, elle laissa passer une question sans y répondre. Le fait est qu'elle réfléchissait. Elle voyait clairement la position de Clara. Elle comprenait le trouble que cette position jetait dans l'âme d'une jeune fille. Cependant, tout bien considéré, il lui était impossible de se rendre compte de l'extrême agitation de Clara. Son coup d'œil rapide et sûr lui avait fait remarquer que la physionomie de Clara ne laissait voir aucun signe de soulagement maintenant qu'elle s'était déchargée du poids de son secret. Il y avait évidemment là-dessous quelque chose d'important qu'il restait encore à découvrir. Un doute subtil traversa l'esprit de Madame Crayford et lui inspira la question suivante qu'elle adressa à sa jeune amie.
« Ma chère, lui dit-elle brusquement, m'avez-vous fait une confession bien entière ?»
Clara tressaillit comme si cette question la terrifiait. Madame Crayford, sûre d'avoir mis la main sur le fil conducteur, répéta résolument sa question en d'autres termes. Au lieu de répondre, Clara leva les yeux et, en même temps, ses joues se colorèrent légèrement pour la première fois. Regardant instinctivement de son côté, Madame Crayford s'aperçut de la présence, dans la salle, d'un jeune gentleman qui réclamait Clara pour la valse qui allait commencer. Madame Crayford devint encore une fois pensive. « Ce jeune homme, se demanda-t-elle, aurait-il quelque rapport avec la partie que Clara ne m'a pas révélée de son histoire ? Serait-ce là véritablement la cause secrète de la terreur de Clara en apprenant le retour imminent de M. Richard Wardour ? Madame Crayford résolut d'éclaircir ce doute. « Est-ce un de vos amis, ma chère ? » demanda-t-elle de l'air le plus naturel du monde. « Présentez-nous l'un à l'autre. » Clara, toute confuse, présenta le jeune gentleman. « Monsieur Francis Adersley, Lucie. Monsieur Adersley appartient à l'expédition polaire. »«
Vous êtes attaché à l'expédition ?» répéta Madame Crayford. « Comme j'y suis attachée aussi par mon mari, je ferais bien de me présenter moi-même, Monsieur Adersley, puisque Clara a oublié de le faire. Je suis Madame Crayford. Mon mari est le lieutenant Crayford du Wanderer. Appartenez-vous à ce navire ?»«
Je n'ai pas cet honneur, Madame Crayford. J'appartiens au Sea Mew. » Madame Crayford enveloppa d'un ferme regard Clara et Francis et devina tout ce que Clara ne lui avait pas dit de son histoire. Le jeune officier était un brillant et beau gentleman, précisément la personne la plus propre à compliquer la difficulté entre Clara et Richard Wardour. Le temps manquait pour faire une plus ample enquête, car la musique avait joué le prélude de la valse et Francis Aldersley attendait sa valseuse. Après un mot d'excuse adressé au jeune homme, Madame Crayford tira Clara à part et lui dit à l'oreille « Un mot, ma chère, avant que vous rentriez dans la salle de bal. Il m'est suggéré par le peu que vous m'avez dit, mais ce peu me suffit pour comprendre votre position maintenant, mieux que vous ne la comprenez vous-même. Voulez-vous connaître mon opinion ?
J'aspire à la connaître, Lucie. J'ai besoin de votre opinion, j'ai besoin de votre avis.
Vous aurez l'un et l'autre en termes aussi clairs et aussi concis que possible. Premièrement, mon opinion. Vous n'avez pas à choisir. Il faut en venir à une explication avec M. Wardour aussitôt qu'il sera arrivé. Secondement, mon avis. Si vous désirez rendre l'explication facile des deux côtés, prenez soin de l'affaire en qualité de femme entièrement libre. » Madame Crayford appuya fortement sur ces trois derniers mots et les prononça en fixant ses regards sur Francis Aldersley. « Je ne veux pas vous tenir plus longtemps séparée de votre partenaire, Clara, » ajouta-t-elle. Et elle se dirigea la première vers la salle de bal. Le poids qui pesait sur l'âme de Clara lui parut encore plus lourd après ce que Madame Crayford venait de lui dire. Elle était trop malheureuse pour s'abandonner à l'influence entraînante de la valse. Dès la fin du premier tour, elle se plaignit d'être fatiguée. Francis Aldersley regarda dans la salle du buffet, qui était encore fraîche et déserte, et y ramena Clara, qu'il fit asseoir au milieu des arbustes. Elle essaya, mais faiblement, de le renvoyer.
« Je ne veux pas vous empêcher de danser, monsieur Aldersley. »
Il s'assit auprès d'elle et promena ses yeux avec délice sur la charmante figure de Clara, qu'elle tenait baissée sur sa poitrine et n'osait tourner vers lui. Il lui murmura à l'oreille « Appelez-moi Franck. » Elle ne demandait pas mieux que de l'appeler Franck, car elle l'aimait de tout son cœur. Mais la vie de Madame Crayford était encore présente à son esprit. Elle n'ouvrit pas la bouche. Son amant s'approcha un peu plus près d'elle et lui demanda une autre faveur. Les hommes sont tous les mêmes dans ces occasions. Le silence les encourage invariablement à tenter davantage. « Clara, avez-vous oublié ce que je vous ai dit hier au concert ? Puis-je le dire encore ?»«
Non. »«
Nous partons demain pour les mers polaires. Je puis ne pas revenir avant plusieurs années. Ne me laissez pas partir sans espérance. Songez à ce long temps que je vais passer loin de vous, dans ces sombres régions du Nord. Faites que ce soit un temps heureux pour moi. » Quoiqu'il parlât avec toute l'ardeur d'un homme, il était à peine sorti de l'adolescence, il n'avait encore que 20 ans et il allait risquer sa vie, à peine commencée, au milieu de la mer glaciale. Clara eut pitié de lui. Il était le premier jeune homme pour lequel elle eût jamais ressenti une pitié pareille. Il lui prit doucement la main. Elle s'efforça de la dégager. « Quoi ? Pas même cette légère faveur dans cette dernière nuit ?» Le cœur sincère de Clara prit le parti de son amant. Elle lui laissa sa main et sentit la douce pression de celle de Francis. Dès ce moment, elle fut une femme perdue. Ce n'était plus qu'une question de temps. «
Clara, m'aimez-vous ?
Ici, une pause. Elle n'ose le regarder, elle tremble, en proie aux sensations contradictoires du plaisir et de la peine. Le bras de son amant enveloppe sa taille, il répète sa question dans un doux murmure, ses lèvres touchent presque la petite oreille de Clara lorsqu'il lui dit pour la seconde fois « M'aimez-vous ?» Elle ferme à demi les yeux, elle n'entend que ces mots, elle ne sent rien que le bras de Franck passer autour de sa taille, elle oublie les avertissements de Madame Crayford, elle oublie Wadour lui-même, elle oublie tout au monde, excepté son amour, et laisse tomber sa tête sur la poitrine de Franck. Ce fut sa réponse. Il soulève cette belle tête dont le visage est inondé de larmes. Leurs lèvres se rencontrent dans leur premier baiser. Ils sont tous deux dans le ciel. C'est la voix de Clara qui les ramène sur la terre. C'est Clara qui dit en tressaillant « Ah, qu'ai-je fait ?» Comme de coutume, elle se le demande quand il est trop tard. Franck lui répondit « Vous avez fait mon bonheur, cher ange. Maintenant, quand je reviendrai pour faire de vous ma femme. » Elle frémit. Elle se rappela à ces mots Richard Wardour. « Écoutez, dit-elle, que personne ne sache que nous nous sommes engagés l'un à l'autre jusqu'à ce que je vous permette de l'avouer. Souvenez-vous bien de cela. » Il le lui promit. Il essaya encore de passer son bras autour de la taille de Clara, mais elle ne le lui permit pas. Elle était redevenue maîtresse d'elle-même, elle voulut absolument le renvoyer après lui avoir laissé prendre ce baiser. « Allez, lui dit-elle, j'ai besoin de voir Madame Crayford. Trouvez-la, dites-lui que je l'attends ici et veux lui parler. Allez me la chercher tout de suite, Franck, pour l'amour de moi. » Il n'y avait pas à hésiter, il fallait obéir. Il jeta un long et dernier regard sur Clara et sortit pour exécuter son ordre. Il sortit l'homme le plus heureux du monde. 5 minutes auparavant, il était le partenaire de Clara pour une valse. Il avait parlé et il était devenu son partenaire pour la vie. Ce ne fut pas facile de trouver Madame Crayford dans la foule. Tout en la cherchant de côté et d'autre, il remarqua la présence d'un étranger qui paraissait, de son côté, chercher aussi quelqu'un. C'était un brun, au front large, aux membres robustes, vêtu d'un uniforme vieux et râpé d'officier de marine. Ses manières, sous un air à la fois résolu et grave, étaient incontestablement celles d'un gentleman. Il circulait lentement parmi la foule, s'arrêtant pour regarder chaque femme près de laquelle il passait, puis il s'éloignait en sourcillant. Peu à peu, il se trouva près de la salle des rafraîchissements, y entra après un court moment de réflexion, découvrit parmi les arbustes et les fleurs une robe blanche, s'en approcha pour voir le visage de la dame qui la portait et poussa un cri de joie en se trouvant en présence de Clara. Elle se releva aussitôt et resta devant lui, muette, immobile, comme transformée en statue. Toute sa force vitale se concentra dans ses yeux qui lui disaient qu'elle voyait devant elle Richard Wardour. Il fut le premier à parler. « Je regrette de vous avoir effrayée, ma chérie. Je n'ai pensé à rien, si ce n'est au bonheur de vous revoir. Il n'y a que 2 heures que nous avons jeté l'ancre. J'ai passé quelque temps à vous chercher et quelque temps à prendre mon billet d'entrée à ce bal dès qu'on m'a dit que vous y étiez. Félicitez-moi, Clara, j'ai été promue. Je reviens pour faire de vous ma femme. » La pâleur fit place pour un instant à une légère coloration sur le visage terrifié de Clara. Ses lèvres s'ouvrirent, elle adressa brusquement cette question à Wardour. « Avez-vous reçu ma lettre ?» Il tressaillit. « Une lettre de vous, je n'en ai reçu aucune. » L'animation passagère qui s'était laissée voir sur le visage de Clara disparut. Clara fit quelques pas en arrière et se laissa tomber sur une chaise. Il avança vers elle, étonné et alarmé. Elle tressaillit sur sa chaise comme si elle avait peur de lui. « Clara, vous ne m'avez pas serré la main. Qu'est-ce que cela veut dire ?» Il attendit un moment, la regardant en silence. Elle ne répondit pas. Il répéta, d'une voix plus haute et plus rude, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Elle répondit cette fois. Le ton de Wardour l'avait blessée. Ce ton lui avait rendu tout son courage. « Cela veut dire, monsieur Wardour, que vous vous êtes mépris. »«
Comment me suis-je mépris ?»«
Vous avez conçu une fausse espérance et ne m'avez pas laissé le temps de vous détromper. »
« En quoi ai-je conçu une fausse espérance ?»«
En vous montrant trop prompt et en présumant trop de vous-même et de moi. Vous m'avez absolument mal comprise. Je suis fâchée de vous affliger, mais dans votre propre intérêt, je dois vous parler clairement. Je suis toujours votre amie, monsieur Wardour. Je ne serai jamais votre femme. »
Il répéta machinalement ces derniers mots. Il semblait douter qu'il eût bien entendu.
« Vous ne serez jamais ma femme ?»«
Jamais.
Pourquoi ?»
Clara ne répondit pas. Elle était incapable de lui faire un mensonge. Elle avait honte de lui dire la vérité. Il se pencha sur elle et saisit tout à coup sa main. Il la retint avec force et se pencha encore plus bas, cherchant à découvrir, dans le visage de Clara, des signes qui pussent répondre pour elle. Son visage, à lui, s'assombrissait peu à peu pendant qu'il la regardait. Il commençait à soupçonner la vérité et il le déclara en ces termes.
« Quelque chose vous a fait changer de sentiment à mon égard, Clara. Quelqu'un vous a influencé contre moi. Est-ce que vous me forcez à vous poser cette question ? Est-ce notre homme ?
Vous n'avez pas le droit de m'adresser cette question. »
Il continua sans tenir compte de ce qu'elle venait de lui dire.
« Cet homme est venu se placer entre vous et moi. Je parle clairement de mon côté. Parlez-moi clairement du vôtre. »
« J'ai parlé. Je n'ai rien de plus à vous dire. »
Ici, il se fit une pause. Elle vit briller les yeux de Wardour d'un éclat de plus en plus vif. C'était l'éclat du feu qui brûlait l'âme du jeune homme. Elle sentit de plus en plus la pression avec laquelle il lui étreignait la main. Il lui adressa un dernier appel.
« Réfléchissez-y, réfléchissez-y avant qu'il soit trop tard. Votre silence ne vous servira de rien. Si vous persistez à le garder, je le prendrai par un aveu. M'entendez-vous ?»«
Je vous entends. » »«
Clara, je ne suis pas un homme dont on puisse se jouer. Clara, j'insiste pour connaître la vérité. Avez-vous manqué envers moi à la foi promise ?»
Clara ressentit profondément, avec sa susceptibilité de femme, l'injure impliquée dans ce doute qui lui était jeté à la face.
« Monsieur Wardour, vous vous oubliez quand vous exigez de la sorte que je vous rende compte de ma conduite. Je ne vous ai jamais encouragé, je ne vous ai jamais donné ni promesse ni gage. »
Il interrompit brusquement.
« Vous vous êtes engagé en mon absence. Vos paroles le confessent. Vos regards le confessent. Vous vous êtes engagé envers un autre homme. »
« Si je me suis engagée, quel droit avez-vous de vous en plaindre ? » répondit-elle avec fermeté.
« Quel droit avez-vous de contrôler mes actions ?»
Ces derniers mots moururent sur ses lèvres. Wardour laissa aller soudainement la main qu'il tenait encore. Elle remarqua dans son regard un changement notable, un changement qui lui dit quelle terrible passion elle avait déchaînée dans l'âme du jeune homme. Elle lut sur sa figure, obscurément il est vrai, mais elle lut enfin quelque chose qui la fit trembler, non pas pour elle, mais pour Franck. Peu à peu, la couleur sombre qui couvrait la face de Wardour se dissipa quand il prononça ces paroles d'adieu.
« N'en dites pas davantage, mademoiselle Burham. Vous en avez dit assez. Vous m'avez répondu, vous m'avez congédié. »
Il fit une pause et, s'approchant d'elle, il mit sa main sur le bras de la jeune fille et lui dit
« Le temps pourra venir où je vous pardonnerai. Mais l'homme qui m'a dérobé votre cœur regrettera le jour où, vous et lui, vous vous êtes rencontrés. »
Après avoir dit ces mots, il s'éloigna. Quelques minutes après, Madame Crayford, entrant dans la salle des rafraîchissements, fut croisée par un domestique qui l'arrêta comme s'il voulait parler.
« Que désirez-vous ? » lui demanda-t-elle.
« Pardon, madame, auriez-vous par hasard un flacon de sel ? Il y a là, dans la salle, une jeune dame qui se trouve mal. » Le lendemain matin, au moment fixé pour le départ des navires, le ciel était radieux et rafraîchi par une bonne brise.
Madame Crayford, s'étant proposé d'accompagner son mari jusqu'au rivage pour assister à son embarquement, entra d'abord dans la chambre de Clara, désireuse de savoir comment elle avait passé la nuit. À son grand étonnement, elle la trouva tout habillée et prête comme elle à sortir. « Qu'est-ce que cela veut dire, ma chère, après ce que vous avez souffert la nuit dernière, après la secousse que vous a fait éprouver la vue de ce Wardour, pourquoi ne suivez-vous pas mon conseil et ne restez-vous pas dans votre lit ?»«
Je ne puis y tenir, je n'ai pas dormi de la nuit. Êtes-vous déjà sorti ?»«
Non. » »«
Avez-vous vu Monsieur Wardour ou avez-vous entendu parler de lui ?»«
Quelle singulière question !»
« Répondez-y, ne plaisantez pas là-dessus !»«
Calmez-vous, Clara, je n'ai point vu Monsieur Wardour, je n'ai point entendu parler de lui. Croyez ce que je vous dis, il est loin d'ici en ce moment. »«
Non, il est ici, il est près de nous. Toute la nuit, un pressentiment m'a poursuivi. Franck et Monsieur Wardour se rencontreront. »
« Ma chère enfant, à quoi pensez-vous? Ils sont complètement étrangers l'un à l'autre. »
Il arrivera quelque chose qui les mettra en rapport l'un avec l'autre. Je le sens, je le sais. Ils se rencontreront, ils se prendront d'une querelle mortelle et j'en aurai été la cause. Oh, Lucie, pourquoi n'ai-je pas suivi votre avis? Pourquoi ai-je laissé voir Franck que je l'aimais? Allez-vous à l'embarcadère, je suis prête, il faut que j'y aille avec vous.
Vous ne devez pas y songer, Clara. Il y aura une foule énorme, une grande confusion sur le rivage. Vous n'êtes pas assez forte pour endurer cette épreuve. Attendez-moi, je ne serai pas longtemps absente. Attendez que je revienne.
Je dois aller avec vous. La foule, il sera au milieu de cette foule. La confusion, dans cette confusion, il trouvera son chemin pour arriver jusqu'à Franck. « Ne me demandez pas d'attendre. Je deviendrai folle si j'attends. Je n'aurai pas un moment de tranquillité que je n'ai vu de mes propres yeux, Franck embarqué sain et sauf dans le canot qui doit le transporter à son navire. Vous avez mis votre chapeau. Qu'attendez-vous ici? Venez ou j'irai sans vous. Regardez la pendule. Nous n'avons pas un moment à perdre. »
Il était inutile de contester plus longtemps. Madame Crayford céda. Les deux jeunes femmes sortirent ensemble. L'embarcadère, comme l'avait prévu Madame Crayford, était encombré de spectateurs. Non seulement les parents et les amis des marins de l'expédition, mais des étrangers en grand nombre étaient accourus pour voir partir les deux navires. Les yeux de Clara erraient çà et là, pleins d'angoisse, parmi cette foule mêlée, cherchant l'homme qu'elle craignait de voir et ne le voyant pas. Ses nerfs étaient si complètement agacés qu'elle tressaillit et poussa un cri d'effroi en entendant tout à coup derrière elle la voix de Franck. « Les canots du Simiou attendent, dit-il. Il faut que je parte, chère. Comme vous êtes pâle, Clara, êtes-vous indisposée ?» Elle ne répondit pas, mais, le regardant avec des yeux égarés et les lèvres tremblantes, elle lui dit «
Ne vous est-il rien arrivé, Franck? Rien d'extraordinaire ?»
Franck se prit à rire en entendant cette question. « Rien d'extraordinaire, répéta-t-il, rien que je sache, si ce n'est que je m'embarque pour les mers polaires. Cela est assez extraordinaire, n'est-ce pas ?»«
Personne ne vous a parlé depuis la nuit dernière, aucun étranger ne vous a suivi dans les rues. »
Franck se tourna, pâle d'étonnement, vers Madame Crayford.
« Que veut-elle dire au nom du ciel ?»
Madame Crayford trouva à l'instant, dans sa vive imagination, une réponse à cette question.
« Croyez-vous au rêve, Franck? Naturellement, vous n'y croyez pas. Clara a rêvé de vous, et Clara est assez folle pour croire au rêve. C'est là tout. N'en parlons plus. Écoutez, on vous appelle. Dites-nous au revoir, ou vous arriverez trop tard pour monter sur le canot. »
Franck prit la main de Clara. Longtemps après, au milieu des sombres journées et des tristes nuits des régions polaires, il se rappela combien cette main était froide et insensible quand il la pressa dans la sienne. «
Courage, Clara !» lui dit-il gaiement. « La douce moitié d'un marin doit s'accoutumer au départ. Le temps passera bien vite. Au revoir, ma chérie. Au revoir, ma femme. »
Il déposa un baiser sur la main froide de Clara. Il regarda une dernière fois cette pâle et belle figure qu'il ne devait pas revoir de plusieurs années peut-être. Il tenait toujours sa main. Il l'aurait tenue longtemps encore si Madame Crayford n'y avait mis sagement bon ordre en l'obligeant à s'éloigner. Les deux dames le suivirent à quelque distance à travers la foule et le virent entrer dans le canot. Les avirons s'abattirent sur les flots. Frank salua Clara de son chapeau. Bientôt, un vaisseau à l'ancre cacha le canot à la vue des deux dames. Elles avaient vu Frank y entrer le dernier pour aller rejoindre les navires de l'expédition. « Vous le voyez, point de Wardour dans le canot, » dit Madame Crayford. « Point de Wardour sur le rivage. Que cela vous serve de leçon, ma chère. Ne soyez jamais plus assez folle pour croire encore aux pressentiments. » Les yeux de Clara erraient toujours ça et là, parmi la foule, avec défiance. « N'êtes-vous pas encore satisfaite ?» lui demanda Madame Crayford. « Non, » répondit Clara, « je ne suis pas encore satisfaite. » « Quoi, vous cherchez encore si vous le découvrirez ? Cela est par trop absurde. Voici mon mari. Je vais lui dire d'appeler une voiture et je vous renverrai à la maison. » Clara recula de quelques pas. « Je ne veux pas m'interposer entre vous et votre mari pendant vos adieux, » dit-elle. « Je vous attendrai ici. »« Attendre ici ? Pourquoi ? Pour voir ce que je pourrais encore voir ou entendre ce que je pourrais entendre. » « Toujours, Monsieur Wardour ?»« Toujours, Monsieur Wardour !» Madame Crayford se tourna vers son mari sans ajouter un mot. L'opiniâtreté de Clara dépassait toutes les bornes. Les canots de Wanderer prirent la place laissée vacante par ceux du Sea Mew. Des acclamations se firent entendre dans les rangs les plus éloignés de la foule. Elles annonçaient l'arrivée du commandant de l'expédition. Le capitaine Helding parut en effet, regardant à droite et à gauche pour découvrir son premier lieutenant qu'il cherchait. Remarquant que Crayford était avec sa femme, le capitaine pria celle-ci de la meilleure grâce possible de souffrir qu'il causât un instant avec le lieutenant. « Permettez à votre mari de vaquer une minute au devoir de sa profession, Madame Crayford, et vous pourrez ensuite le garder encore une demi-heure auprès de vous. » « C'est l'expédition et non le capitaine, chère madame, qu'il faut blâmer de séparer ainsi un mari de sa femme. À la place de Crayford, j'aurais laissé les célibataires aller chercher le passage du Nord-Ouest et je serais resté chez moi auprès de vous. » Après s'être excusé en ces simples termes, le capitaine Helding s'éloigna de quelques pas avec le lieutenant. Le hasard voulut que les deux officiers allèrent s'entretenir à peu de distance de l'endroit où s'était retirée Clara, pour attendre Madame Crayford. Le capitaine et le lieutenant étaient trop absorbés par l'affaire qui les préoccupait pour remarquer cette circonstance. Ni l'un ni l'autre n'eurent le moindre soupçon que Clara pût entendre, comme elle entendit, en effet, tout ce qu'ils se dirent. « Vous avez reçu ma note ce matin, » dit le capitaine. « Certainement, capitaine, autrement je serai déjà à bord. » « Je vais y aller immédiatement, » ajouta le capitaine. « Mais il faut que je vous prie auparavant de retenir à l'embarcadère votre canot une demi-heure encore. Vous pourrez pendant ce temps rester auprès de votre femme. J'ai pensé à cela, Crayford. » « Je vous en suis très reconnaissant, capitaine. Je suppose que vous avez eu une autre raison d'intervertir l'ordre accoutumé des choses en retenant le lieutenant sur le rivage tandis que le capitaine se rend à bord. » « C'est parfaitement vrai. J'ai eu une autre raison. Je désire que vous attendiez un volontaire qui vient se joindre à nous. »« Un volontaire ?»« Oui, il lui faut compléter à la hâte son équipement, ce qui lui demandera une demi-heure. » »« C'est une résolution bien soudaine de sa part. Sans doute très soudaine. » »« Et, pardonnez ma question, est-il si important, dans la situation où nous sommes, de faire attendre les navires par considération pour un seul homme ? Certainement, un homme qui mérite de prendre part à notre expédition mérite qu'on l'attende. Cet homme mérite de venir avec nous car il vaut son pesant d'or dans une expédition comme la nôtre. Acclimaté à toutes les températures, rompu à toutes les fatigues, robuste, brave compagnon, habile marin, enfin, très bon officier, il m'est bien connu. Autrement, je ne l'aurais point enrôlé avec nous. C'est une excellente acquisition qu'un pareil volontaire. Il est revenu hier d'un service à l'étranger. Il est revenu seulement hier d'un service à l'étranger et il s'engage ce matin comme volontaire dans notre expédition vers le pôle arctique. Vous m'étonnez. Je le crois, vous ne pouvez être plus étonné que je ne l'ai été quand il s'est présenté à mon hôtel et m'a appris ce qu'il désirait. « Quoi, mon cher ami, lui ai-je dit, vous ne faites que d'arriver et vous êtes déjà fatigué de votre liberté après en avoir joui seulement quelques heures ?» Sa réponse m'a fait tressaillir. Il m'a dit « Je suis las de la vie, je suis revenu chez moi et j'y ai trouvé une peine qui m'a, ou peu s'en est fallu, brisé le cœur. Si je ne trouve pas un refuge contre cette peine dans l'absence et dans de rudes travaux, je suis un homme perdu. Voulez-vous me donner ce refuge ?» Voilà ce qu'il m'a dit, Crayford, mot pour mot. Lui avez-vous demandé de s'expliquer plus nettement ? Non, je sais ce qu'il vaut. J'ai enrôlé le pauvre diable à l'instant. Je n'ai pas voulu le fatiguer de mes questions. Il n'est pas besoin de lui demander de s'expliquer davantage. Les faits parlent d'eux-mêmes en pareil cas. C'est la vieille histoire, mon cher ami. Il y a une femme au fond de cette histoire, naturellement. Madame Crayford, qui attendait le retour de son mari aussi patiemment que possible, tressaillit en sentant une main se poser soudainement sur son épaule. Elle se retourna et se trouva en face de Clara. Sa surprise fit place aussitôt à un sentiment d'effroi. Clara tremblait de la tête aux pieds. « Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qui vous a effrayé, ma chère ?»«
Lucie, j'ai entendu parler de lui !»«
De Wardour ?»
« Rappelez-vous ce que je vous ai dit.
J'ai entendu chaque mot de la conversation qu'ont eu le capitaine Helding et votre mari. Un homme est venu trouver le capitaine ce matin et s'est enrôlé comme volontaire sur le Wanderer. Le capitaine l'a accepté. Cet homme est Monsieur Wardour. »«
Vous n'y pensez pas ? Êtes-vous sûr de ce que vous dites ? Avez-vous entendu le capitaine prononcer son nom ?
Non.
Alors ? Comment savez-vous qu'il s'agissait de M. Wardour ?
Ne me le demandez pas. J'en suis aussi sûre que je le suis d'être ici.
Ils vont partir ensemble, Lucie, partir pour le pays des glaces et des neiges éternelles. Mon pressentiment s'est vérifié. Ils se trouveront en présence l'homme qui doit être mon mari et l'homme dont j'ai brisé le cœur.
Votre pressentiment ne s'est pas vérifié, Clara. Ces deux hommes ne se sont pas rencontrés ici. Ils ne se rencontreront pas probablement ailleurs. Ils sont à bord de deux navires séparés. Frank appartient au Sea Mew et M. Wardour au Wanderer. Voyez, le capitaine a fini. Mon mari vient à nous. Laissez-moi m'assurer du fait, laissez-moi parler à mon mari. » Le lieutenant Crayford revint auprès de sa femme. Elle lui dit aussitôt « William, vous avez un nouveau volontaire qui va monter sur le Wanderer ?»
« Quoi ? Vous avez écouté notre conversation entre le capitaine et moi ?
Je désire savoir son nom.
Comment donc avez-vous fait pour entendre ce que nous avons dit ?
Son nom ! Le capitaine, vous a-t-il dit son nom ?
Ne vous échauffez pas, ma chère. Voyez, vous alarmez Mademoiselle Burnham. Le nouveau volontaire nous est parfaitement étranger. Voici son nom. C'est le dernier du rôle de l'équipage. »
Madame Crayford arracha le rôle des mains de son mari et lut le nom « Richard Wardour ».